Chapitre 117. Gorge d'Aora, Mont Ahara, Turquie. Les cailloux roulèrent sur leurs pieds, libérant un torrent de pierres. Tous se retournèrent, regards braqués sur l'amont du couloir de moraine dans lequel ils progressaient, redoutant l'avalanche. Le corridor par lequel les bergers kurdes cherchaient à rejoindre le gouffre d'Aora était plus glissant qu'un névé gelé. « Merde !» hurla Zach. Son pied avait dévissé sur le sol meuble. Il roula sur 3 mètres pendant que sa béquille de fortune, un tuteur de tente en cyprès, s'échouait dans la neige fondue. Il se releva presque aussitôt, grimaçant, chancelant. Pour conserver son équilibre, il accepta l'aide d'Esther. Un filet de sang inondait son pantalon clair, à l'endroit de sa plaie à peine cicatrisée. « Filez !» ordonna-t-il. « Je vous ralentis. Je vous retrouverai plus tard. » Je connais les grottes d'Aora comme si j'y étais née. »
Cécile ramassa la canne. « Ne faites pas l'enfant, Zach. C'est avec ce genre de baratin que vous nous retardez. On se relaiera s'il le faut. On vous portera, mais on avancera, ensemble. Ce n'est pas difficile. Il n'y a qu'à suivre les croix gravées dans les pierres par les tribus kurdes prédiluviennes. »
La chercheuse planta avec détermination la branche dans le sol. Avant de quitter le camp, Zach lui avait expliqué que la gorge d'Aora était percée d'un inextricable dédale de grottes qui constituait depuis des millénaires un refuge pour les bergers kurdes. Navarra les mentionnait dans sa première expédition de 1952, s'étonnant de trouver des croix préhistoriques gravées sur les parois rocheuses. Quelle ironie de découvrir qu'il s'agissait de signes ancestraux indiquant la direction. Gravés sur un bijou de cuivre ensuite. Devenu le symbole de l'union entre un homme et une femme, entre un géant et une humaine. Zach grogna mais se laissa faire lorsque 2 Kurdes de plus de 60 ans, Nisko et Soran, le saisirent sous les aisselles. Au-dessus d'eux, une chèvre unicorne les observait, perchée sur un piton de basalte, implorante. La petite Amman s'arrêta. Esther tira sa fille par la manche.
« Am !»
Des larmes inondaient les yeux de la fillette. Elle s'exprima en kurde, mais Cécile comprit au geste de ses doigts et à la répétition compulsive d'un mot. D'un seul mot. Leka. Elle refusait de laisser la chèvre unicorne derrière elle, seule. Personne n'osa la contredire. Esther leva la main et sourit. Nul besoin de mots entre la mère et la fille. Amman sauta sur place, contenant difficilement sa joie. Un sifflement jaillit entre ses dents. La chèvre unicorne dévala le talus, agile, excité tel un chien accourant vers un maître qui l'autorise à pénétrer dans un lieu interdit. Sur le piton de basalte, 10 de chèvres apparurent. Cécile se frotta les yeux. Tout s'était déroulé extrêmement vite depuis le massacre du campement. Chacun avait ramassé ses maigres affaires. Cécile avait suivi la cohue. Elle ne put cette fois retenir la question qui lui brûlait les lèvres.
« Ce sont des... »
Zach répondit en grimaçant, sans cesser de marcher. Le vieux Nisko, courbé comme un arc bandé, lui servait de seconde jambe.
« Oui, Cécile. Ces mignonnes petites chèvres pourraient sans aucun doute être qualifiées de licornes par un zoologue. En réalité, elles ne sont qu'une sous-espèce un peu particulière de caprin. Une espèce unicorne. Un petit caprice de la nature. Mais elles sont bien les descendantes directes de cet animal que les textes anciens appellent licorne, avant que les principales religions monothéistes ne la représente sous la forme d'un cheval fantastique et que, petit à petit, la fable ne fasse oublier la réalité antérieure. »
Leka, la chèvre sifflée par Amman, s'approcha de Cécile, dansant avec élégance sur les anfractuosités de la roche, discrète et gracile escorte. Zach reprit son souffle, comme si parler apaisait sa douleur.
« À votre avis, Cécile ?» Quelle est la meilleure façon de dissimuler une espèce animale menacée? Menacée tout autant par les chasseurs que par les dépositaires des religions universelles qui voient en elle la preuve de leurs mensonges.
Détourner l'attention?
Bien entendu. L'astuce des bergers kurdes est assez géniale, non? Tordre à la naissance les cornes de quelques chèvres pour les déguiser en animaux unicornes et faire passer cette pratique pour un rituel cruel et archaïque. Qui pourrait soupçonner qu'en réalité, il s'agit d'un leurre, et que les quelques bestioles unicornes, crétines et inoffensives exposées à la vue des rares touristes protège un troupeau dispersé en haute montagne d'apparence similaire, d'apparence seulement.
Les doigts de la petite Amane se perdaient dans les poils de Leka qui grognait de plaisir. Zack continua. Sa voix haletante rythmait ses pas mal assurés.
Les Kurdes racontent que la licorne était l'animal préféré de Noé, l'animal le plus intelligent de la création. Le seul qu'il n'a pas eu le courage de supprimer pour n'en conserver qu'un seul couple dans son vaisseau. Un animal fidèle, au point de demeurer sur la Rara après que l'arche fut échouée, des millénaires durant.
Il fit signe au vieux Nisko de ralentir et souffla un instant.
« Vous les avez vus à l'œuvre, Cécile. Doutez-vous toujours des légendes de la Rara ?»
La chercheuse prenait garde à ne pas se tordre les pieds dans les minuscules cratères qui déformaient la corniche. « Non, Zack, non. Taisez-vous. Reposez-vous. » Soran, un Kurde râblé aux longs cheveux gris, vint relayer Nisko. Zack se pinça les lèvres comme un enfant ne résistant pas à partager une cachotterie.
« Cécile, pour être tout à fait honnête, je vais vous faire une confidence qui ne va pas beaucoup plaire au berger kurde. »
Il lança un clin d'œil à la petite Amane, comme s'il s'amusait à narguer la fillette.
Les Kurdes exagèrent beaucoup l'intelligence des licornes. Ils font d'elles un animal sacré qu'ils dissimulent jalousement sur la Rara depuis des millénaires. Mais pour les avoir beaucoup fréquentées, ce ne sont jamais que des chèvres disposant d'un QI un peu supérieur à la moyenne et d'un instinct de chasseur rare chez les ruminants.
Une intelligence supérieure à la moyenne. Un instinct de chasseur rare. Cécile revoyait les images atroces du massacre des hommes de Zaytin. Zack poursuivit sur le même ton.
En réalité, les licornes ne possèdent guère plus d'intelligence qu'un chien. Elles comprennent une dizaine de mots au maximum. Manger, boire, dormir, jouer.
Cécile compléta dans sa tête. Attaquer, tuer. Tout en dévalant la pente accrochée au poil de sa licorne, Amane lança une salve de mots kurdes à l'intention de Zack. Il éclata de rire devant la mine furieuse de la fillette. Qu'est-ce qu'elle dit ? S'enquit Cécile.
Rien, rien. Toutes les petites bergères de la Rara sont amoureuses des licornes. J'étais comme elle à son âge. Amane prétend que je ne suis qu'un crétin jaloux qui ne comprend rien à leur psychologie. Selon elle, les licornes sont capables d'apprentissages incroyables. Davantage encore que les dauphins ou les chimpanzés. Si on les aime, elles vous...
Zack n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Son pied gauche dérapa avant que le pauvre Soran n'ait eu le réflexe de le retenir. Zack s'effondra sur sa jambe blessée, hurlant à en faire dévaler toutes les pierres de la Rara. Les bergers kurdes s'arrêtèrent. Soran passait ses doigts dans ses cheveux gris, l'air désolé. Zack, livide, la peau hérissée de tremblements, ne put supporter les regards de pitié fixés sur lui.
« Nous n'y parviendrons jamais ainsi. »
Il évalua la distance abyssale qui les séparait du gouffre d'Aora, leva les yeux au ciel, puis les posa sur les familles kurdes, parlant alternativement en kurde et en français.
« Écoutez-moi tous. Depuis déjà plusieurs heures, Cécile Serval a envoyé à Viorel Unor, le président du Parlement mondial des religions, un message indiquant les coordonnées exactes du campement et annonçant que Cortés allait dévoiler l'anomalie d'Arara. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent laisser la vérité exploser. Ils vont intervenir. »
La plaie ouverte suintait. Le ton de Zack se durcit.
« Cécile, vous avez commis une incroyable sottise en envoyant ce message. Évitez d'en ajouter une seconde en forçant le groupe à m'attendre. Il y a ici des femmes, des enfants, des vieillards. Fuyez, ou tout le monde va mourir sous un tapis de bombes. »
Une incroyable sottise. Cécile apprécia le compliment. Elle ne remarqua pas qu'Amane levait des yeux paniqués vers Zack, observant ses gestes, ses cris, l'horizon désert. Personne ne la vit regarder, horrifiée, les licornes sur le piton au-dessus d'eux. Cécile leva à son tour les yeux vers les sommets. Écouta le silence, cherchant tout indice de la présence imminente des gardes suisses du Nord. Rien. Personne. La plaine s'étendait à perte de vue, plusieurs milliers de mètres plus bas, sous un ciel désespérément vide. Cécile s'avança devant Zack, vexée, la poitrine gonflée de colère. « Moi aussi, je vais être claire, Zack Ikabi. Je suis encore plus idiote que vous croyez. Hier, sur cette même montagne, j'ai commis une autre sottise. Votre père m'a emmené boire à la fontaine Saint-Jacob. Il m'a demandé auparavant de nouer mon foulard à l'églantier et de faire un vœu. À votre avis, Zach Ikabi, quelle idée a bien pu passer dans la tête d'une petite sotte de mon espèce ? Zach ne répondit pas. Il souffrait, agenouillé, luttant pour ne pas perdre sa lucidité. Cécile ressemblait à une louve en furie. La licorne l'observait, étonnée. « J'ai fait le vœu débile, que vous soyez le bon !» Zach ferma les yeux. Une sueur glacée coulait sur son front. La blessure rongeait son tibia, sa concentration s'échappait.
« Le bon quoi ?»«
Le bon quoi ?» répéta Cécile comme si elle avait mal entendu. La chercheuse explosa. « Le bon quoi ? Mais quelle conne ! Pourquoi n'ai-je pas formulé le vœu d'un poste à Princeton ?» Les familles kurdes patientaient calmement, incapables de comprendre le sens du torrent de vocifération de la chercheuse. Seule Aman ne les écoutait plus. Dans leur dos, silencieuse, elle avait entrepris d'escalader la paroi derrière eux, presque aussi rapide que les cas, se rapprochant des licornes qui l'attendaient, 10 mètres plus haut. Cécile reprit sa respiration, puis pointa le doigt vers les grottes qui trouaient la paroi. « Zach Ikabi, maintenant que nous avons pris le temps d'écouter vos jérémiades, il est l'heure d'avancer. Relevez-vous et traduisez mes ordres à ces braves gens. Nous allons suivre ces foutues croix, ensemble, ou je vous pousse de mes propres mains dans le précipice. » Personne n'entendit jamais la réponse de Zach que couvrit le cri d'Esther. « Aman !» La fillette s'accrochait au poil de l'éca pour franchir le dernier abrupt la séparant du troupeau de licornes. Elle se retourna, leur sourit, et prononça quelques mots en kurde avant de disparaître avec les cas et les autres animaux. Ils durent demander à Esther de leur traduire, plusieurs fois. La bergère kurde semblait tétanisée, scrutant le ciel comme si la foudre pouvait en tomber à n'importe quelle seconde. « Les licornes, » finit-elle par murmurer. « Elle ne veut pas les laisser mourir. » Elle resta de longues secondes à fouiller du regard le ciel bleu, l'horizon vide, la paroi rocheuse où sa fille avait disparu. Enfin, elle se tourna vers les familles kurdes, vers Zach et Cécile, et désigna les grottes quelques centaines de mètres plus bas, balisées par un chemin de croix. En route.